rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous. Lille a son festival Sérimania. Cannes a son festival Cannes Série. Et bien Compiègne a son émission de radio spéciale série, que j'ai l'honneur d'animer aujourd'hui avec des chroniqueurs passionnés et avisés, Aurore, Amy, Nathalie, Yann et Antoine, et moi-même, Anne. Nous allons vous présenter 9 séries. Alors, on va commencer avec Shyamalan, L'Opéra, Wednesday, The Sinner, La Nouvelle École, The Undoing, Berlin 56, Willow et Ragnarok. Un beau programme, très varié. Et on va commencer avec la bande-annonce de Shyamalan.
Alors, elle est dans le coin. On est béni, c'est une vraie chance.
Tu penses que ce sont des coïncidences?
N'approche pas d'elle. Laisse tomber ces conneries de présages et de prophéties.
Alors, vous restez.
Pourquoi? Ça vous embête?
Ne t'inquiète pas. Peu importe ce que dit ton fils, il n'échappera pas à son destin.
Tu voulais me parler de quelque chose?
Je veux que tu sois la reine de mon royaume.
Donc je vais vous parler de la série Shyamalan. Alors c'est une série originale turque qui a été créée par Umur Turagay, Pinar Bulut, et qui a été diffusée pour la première fois en janvier 2023. Et Shyamalan, c'est une romance moderne sur fond d'anciennes prophéties, comme vous avez peut-être pu l'entendre justement dans la bande-annonce. Elle est composée de 8 épisodes et elle a été filmée dans son intégralité en Turquie. Et la série suit Chasu, donc qui est interprétée par Serenay Sarıkaya, une professeure invitée à enseigner à Adana, donc Adana en Turquie. Alors cette dernière, elle profite du voyage pour demander à son grand-père pourquoi il a abandonné sa mère il y a de cela plusieurs années. L'aventure la conduit alors à une communauté mystérieuse et adepte de Shyamalan appelée Mar. Ayant foi dans la légende de Shyamalan, symbole éminent de l'amour et de la sagesse, les membres de Mar attendent que la prophétie historique se réalise grâce à l'arrivée de Chasu. Mais, bien sûr, elle va croiser le chemin de Maran, interprété par Burak Deniz, et rien ne sera plus jamais comme avant. Alors vous connaissez sûrement l'étrange bestiaire fantastique de créatures comme la sirène, le centaure, le sphinx, mais avez-vous déjà entendu parler de Shyamalan, la reine des serpents? Alors le titre de la série, bien évidemment, vient en effet de ce folklore du Moyen-Orient, puisque Shyamalan est une créature mythique, moitié femme, moitié serpent, que l'on retrouve avec diverses variations chez les Kurdes, en Mésopotamie, en Asie mineure, en Irak et en Iran. Et elle raconte la légende qu'effectivement un jour, le jeune Kansab découvrit le royaume de Shyamalan. Alors il gagna sa confiance, il passa des années avec elle, mais comme il se languissait de sa famille, il demanda à Shyamalan la permission de le laisser sortir. Et Shyamalan accepta, à condition par contre qu'il ne révèle sa cachette bien évidemment à personne. Alors le roi tomba malade, et selon le vizir, il n'y avait que la chair de Shyamalan qui pouvait le guérir. Kansab, qui s'était tu longtemps, fut contraint de révéler l'emplacement de Shyamalan. Alors elle demanda à Kansab de la faire bouillir, de faire manger sa chair au roi et boire le bouillon au vizir. Alors le vizir mourut, mais le roi avait appris la médecine donc auprès de Shyamalan. Donc il avait guéri et il fit de Kansab son nouveau ministre. Alors d'autres versions disent que Kansab, qui avait donc justement appris la médecine, devint le célèbre médecin Lokman Hekim. Le mythe ajoute à la fin que deux serpents ont accompagné Kansab dans ses nombreux voyages pour guérir la population et qu'il y aurait justement un lien avec le caducée, symbole de la pharmacie et de la médecine, associé traditionnellement à Hermès dans la mythologie grecque, qui est représenté comme une baguette de laurier ou d'olivier, surmontée de deux ailes et entourée de deux serpents entrelacés. Et justement, le caducée sert d'ailleurs à guérir les morsures de serpents. Et vraiment, l'univers de justement reptilien, on le retrouve vraiment dans cette série. Et c'est important d'avoir en tête justement la prophétie et la légende, selon moi, avant de regarder la série. Et donc, je trouve que vraiment Shyamalan nous transporte dans une histoire somme toute assez originale, où mythologie et mystère se mêlent. Donc, il y a la romance, bien évidemment, entre Chasu et Maran, qui reste néanmoins le cœur de la série. avec la première qui ignore tout de cette vieille légende et le second qui refuse d'admettre qu'elle soit vraie. Alors au fil des épisodes, les deux vont pourtant devoir s'y résoudre, dépasser leurs conditions pour incarner leurs destinées respectives et ainsi sauver l'humanité. Et pour information, une saison 2 est d'ores et déjà en préparation. Donc c'est vraiment une série voilà, que je vous conseille, qui est peut-être peu connue, mais voilà, que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Donc je passe la parole à Anne qui va vous présenter la série Opéra.
Toi, t'es dans ces étoiles.
Ah ouais ?
Ils veulent me foutre dehors et je vais leur prouver qu'ils ont tort.
C'est trop tard. Même avec la meilleure volonté du monde, jamais tu retrouveras ton niveau d'étoile.
Quand on est surnuméraire, on est moins bon que les autres, non ?
Vous m'avez prise parce que je suis noire.
Quand on entre ici, c'est uniquement pour la danse.
Il y en a certains qui s'accrochent alors qu'ils devraient juste céder la place.
Je suis vraiment désolée. On doit la récupérer parce qu'on n'en a pas assez.
On m'a écartée comme une pouilleuse et vous savez très bien pourquoi. Tout ça parce que personne n'était prêt à assumer. Assumer qu'une danseuse noire soit distribuée comme signe blanc.
J'ai besoin de cet endroit. C'est ma maison, ma famille. Je peux pas partir.
Très bonne gestion de crise. C'est le métier qui rentre.
Oh, qu'est-ce qui t'arrive ?
Je sais pas. Comment on fait pour devenir vraiment une grande danseuse ?
S'il y a quelqu'un à qui on a dit c'est pas possible et qui allait quand même, c'est vous.
Toi, t'as l'occasion unique de faire changer les choses là maintenant.
À la fin, ce qui compte, c'est une fois sur scène, est-ce que j'en suis capable ? Sinon, pourquoi je me bats ?
La série française, L'Opéra, contient deux saisons de 8 épisodes chacune. Elle est coproduite par OCS et on l'a en DVD à la bibliothèque. C'est une immersion dans l'Opéra Garnier, dans les coulisses du ballet de l'Opéra National de Paris, où sont formés les meilleurs danseurs du monde. La série gravite autour de trois personnages principaux. La danseuse étoile Zoé Monin, que la direction veut licencier, comme vous l'avez compris dans la bande-annonce. Parce que la direction, elle est lassée de ses retards et de son manque d'assiduité en répétition. Et oui, à 35 ans, elle a le sens de la fête et elle collectionne les amants. Mais Zoé va se battre contre l'institution et surtout contre elle-même pour décrocher une seconde chance. À ses côtés, on a Sébastien, le nouveau directeur de la danse. Flamboyant et ambitieux, il est joué par Raphaël Personnaz et il veut dépoussiérer la compagnie. Et enfin, on a Flora qui vient de rejoindre le corps de ballet comme surnuméraire, c'est-à-dire en remplaçante. Et elle doit prouver qu'elle mérite sa place pour intégrer la compagnie. Chaque personnage existe véritablement, on y croit, et grâce à une distribution parfaite et un réalisme impeccable. C'est que la réalisation est signée notamment par Stéphane Demoustier, qui a fait La fille au bracelet, et elle est au diapason d'un scénario foisonnant, imaginé par Cécile Ducrot, qui était déjà au scénario de Bureau des légendes et de 10%, et de Benjamin Adam, qui a fait le scénario de Paris Police 1900. Donc, il dépeigne vraiment bien le quotidien des danseurs et des gens de l'ombre, tels que les régisseurs, les assistants. Et il détaille les rouages de l'institution, sa complexité managériale, jusqu'au rapport avec les mécènes ou avec le ministère de la Culture. Et c'est passionnant. Beaucoup de séquences ont été tournées dans le cadre somptueux du Palais Garnier, ainsi qu'à l'Opéra Royal de Wallonie-Liège. Et surtout, la beauté des scènes de danse est éblouissante. On a rarement filmé la danse avec autant de naturel et de simplicité. La série retranscrit bien l'exigence du savoir-faire à la française, en quête perpétuelle de l'excellence, avec les heures de travail, les souffrances physiques autant que morales que cette recherche de la perfection engendre. Sans parler des tensions et de l'hyper-compétitivité, d'un milieu intransigeant et très hiérarchisé, souvent sans pitié avec ses athlètes de haut niveau. Le personnage de Zoé est fascinant, dans sa détermination. C'est un combat entre elle et son propre corps, ses limites. Quand elle danse, elle se bat. Et c'est qu'on se détache de l'image de la danseuse frêle. La série dépeint des corps puissants. La force de cette série, c'est d'apporter donc un regard neuf et caustique sur ce temple de la beauté. Car au-delà de la danse, elle souligne la dichotomie entre la tradition et modernité et révèle comment cette troupe d'élite est confrontée aux changements sociétaux. On a des clins d'œil appuyés au mandat mouvementé de Benjamin Millepied, directeur de la danse qui avait apporté une touche glamour à l'opéra. Et il avait tenté de le réformer. Mais il s'est retrouvé impuissant à moderniser cette institution rigide, ultra codifiée, et il a démissionné au bout d'un an, en 2016. Sa volonté, c'était de rendre la compagnie de ballet plus ouverte et moins discriminante. Et contrairement à l'idée de gommer toutes les aspérités et les différences, il revendiquait le fait que l'uniformité s'exprime dans les mouvements, et non par la couleur de peau. Ici, l'ascension sociale et les mécanismes de discrimination sont abordés à travers le personnage de Flora, qui, parce qu'elle est noire, détonne et se heurte à l'hostilité, mais aspire pourtant à devenir l'une des premières danseuses étoiles noires. Cet ancrage dans notre société contemporaine continue dans la saison 2, avec des thématiques tout aussi actuelles, comme la souffrance au travail et l'emprise. Enfin, on est dans un rythme de thriller, avec une tension souvent palpable. C'est palpitant. Une vraie réussite. Maintenant, on va aller plutôt dans un univers gothique, avec la série Wednesday, dont voici la bande-annonce.
Mademoiselle Adams, je vois que votre parcours scolaire a été des plus intéressants. 8 écoles en 5 ans.
Hé, hey, la chelou, c'est un entraînement privé.
La seule personne autorisée à torturer mon frère, c'est moi. J'ai rendu service au monde. Les gens comme Dalton ne devraient pas être autorisés à procréer. Mon renvoi n'a été que la cerise sur le gâteau.
Tu vas adorer Nevermore. C'est un endroit magique où j'ai rencontré ta mère. Où j'ai découvert l'amour.
Tu seras enfin parmi tes semblables, des gens qui te comprendront. Et tu te feras peut-être même des amis.
Sois un peu sociable, tente le coup. C'est vrai que j'aime donner des coups.
Wednesday ou l'anti-Harry Potter. Wednesday, nouvelle série blockbuster de cette année, depuis le 23 novembre 2022 sur Netflix, créée par Miles Millar, Alfred Kauf et Tim Burton, reconnaît un retentissant succès, comme le prouve le fait qu'il s'agit de la série la plus vue dans 83 pays. Pourquoi donc un tel succès digne du succès jadis de la saga Harry Potter ? Peut-être parce qu'elle marque le retour de Tim Burton sans Johnny Depp au casting, ce qui est déjà un exploit en soi. Mais aussi car on reconnaît la patte du réalisateur dès l'arrivée de la famille Adams sur le nouvel établissement scolaire de l'adolescente Mercredi, pour les moins anglophones d'entre vous. Tiens, tiens, un personnage à part, un établissement scolaire à part, avec un internat architecturalement bien gothique, avec ses créatures, et on enquête. Ça ressemble tout de même un peu aux aventures du binoclard tête à claque qui rentre dans l'adolescence en étant obsédé pour jouer avec sa baguette, non ? Oui, mais Mercredi serait l'anti-Harry Potter, ou Harry Potter dans le prisme réel de l'adolescence. Tout d'abord, les lieux. On est dans le fantastique au départ. Les hommages directs, voire lourdingues à Edgar Allan Poe, le maître du fantastique. Le nom de l'école porte le titre du célèbre poème « Nevermore » de Poe. On y croise souvent le corbeau, sans parler du nombre d'occurrences du nom du célèbre poète et nouvelliste américain. On retrouve des lieux forts qui rappellent la saga des magiciens, l'internat, les lieux étranges et récurrents où vont se dérouler plusieurs points de l'intrigue, la serre aux plantes exotiques. Deuxièmement, les personnages. Au lieu d'en créer une pléthore côté adulte, là on va les concentrer. La directrice, qui semble être une synthèse de Dumbledore et de Rogue, la barbe en moins, la professeure chelou, le personnage adversaire, la camarade qui serait une Granger pour liens sociaux et une Weasley pour le côté pas doué dans son domaine. Mais surtout, un personnage à l'opposé de Potter, Wednesday. Marginale dans la vie courante par ses tendances sociopathes, elle n'est pas une victime comme Potter. Elle venge son frère en jetant des piranhas gloutonnes de testicules dans une piscine. Elle choisit de se mettre en marge pour s'interroger sur son identité. C'est d'ailleurs le point fort et le point faible de cette série, ainsi que son identité fantastique. Tout d'abord, l'identité fantastique pour en être débarrassée. Cette série n'est pas une série fantastique. En effet, selon Todorov, le fantastique naît de l'hésitation d'une introduction d'un élément surnaturel dans le réel, ce qui crée le doute chez le personnage narrateur. Et ici, pas de ça. Loup-garou, vampire, Hyde, mort-vivant et la chose existent, et ce, pour tout le monde. Cependant, la monstruosité reprend ce qu'elle doit être, quelque chose que l'on montre. Ici, elle permet de révéler l'identité des jeunes. Ainsi, Enid, la coloc qui coulole de Wednesday, ne parvient pas à muter en loup-garou, ce qui vient aider le spectateur mal comprenant à adopter cet angle de réflexion sur la condition adolescente. D'un autre côté, c'est bien dommage, car cela aurait complexifié l'intrigue principale qui repose sur des meurtres sanguinaires autour de l'établissement scolaire et le perçage de mercredi. J'en ai marre d'essayer en vain de faire croire que j'ai un bon accent anglais. Mercredi est une jeune adolescente. Elle apparaît sûre d'elle, superbement intelligente, machiavélique, etc., etc. Vous connaissez la chanson si vous avez des ados à la maison ou si vous travaillez avec des ados. Cependant, cela va se fissurer au cours de cette première saison. En effet, ses hypothèses se révèlent souvent fausses. Son cœur se met à rougeoyer auprès de garçons. Elle s'ouvre à l'amitié et va se prendre au jeu. Quel jeu ? Ça, je vous laisse le découvrir. En tout cas, on perçoit bien le cheminement d'une adolescente dans sa quête inconsciente d'identité. Cela crève les yeux dans ses rapports avec sa mère Morticia, campée par une Catherine Zeta-Jones et Jerry du Botox, et quelque peu avec son père Gomez, campé par Louis Guzman. Ce dernier, par ailleurs, s'est pris des critiques sur son physique. Il est vrai que j'ai été surpris par ce Gomez, car dans mes souvenirs de la famille Adams, Gomez ressemblait plus à la caricature du macro des années 30. Mais Louis Guzman se rapproche davantage de l'œuvre du créateur de la famille Adams, Charles Adams. On est donc loin du Potter qui ne fait que pleurer maman et papa et accepte le destin qu'on lui présente sur un plateau et joue au héros sans arrêt alors que ce sont ses camarades qui font tout le sale boulot. Mais il se sacrifie, alors bon, quand même, faut pas déconner. Au niveau de l'intrigue, on est loin de Potter également. Elle fonctionne assez bien, sans être non plus grandiose. Cependant, elle est parfaitement adaptée dans les 4 premiers épisodes, qui sont d'ailleurs les meilleurs à mon sens. Ce sont ceux réalisés par Tim Burton lui-même. Coïncidence ? Les suivants sont réalisés par Ganja Montero et James Marshall. La réalisation m'a paru alors plus classique, moins subtile, moins ciselée. L'atmosphère et les lieux sont moins acteurs et on est plus sur les rapports humains et l'intrigue. Ce que je trouve assez dommage. La musique n'est pas mal non plus avec les extraits de l'hiver de la pizza de Vivaldi, de Painting Black des Stones. Pas d'une extraordinaire originalité, assez attendue, mais elle fait le job. En somme, car je sens que vous allez bientôt vous endormir, c'est une série plaisante, assez pertinente, mais qui s'essouffle dans l'originalité promise. On attend de voir ce que nous réserve la suite, car Netflix a prévu et annoncé une deuxième saison. À suivre ou pas.
On a hâte quand même d'avoir la deuxième saison. Et t'as pas parlé de la scène mémorable de danse. Elle
non,
est quand même incroyable.
On l'a assez vue sur YouTube. Au début, j'avais écrit un passage, mais trop corrosif, je pense. Donc j'ai préféré le retirer.
Ceci dit, c'est quand même pas souvent qu'on a des séries familiales qui intéressent autant les adultes que les jeunes. Et cette série, pour le coup, elle intéresse vraiment tout le monde.
Mais donc parce qu'elle joue aussi sur les antécédents de la famille Adams. Dans la chorégraphie, par exemple, Ortega, qui l'a construite et qui l'a très bien construite d'ailleurs, a repris des mouvements que jouait je ne sais plus quelle actrice qui campait mercredi dans les années 60. Donc on retrouve aussi des éléments. Donc, donc c'est vrai que ça marche bien. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Nathalie qui va vous présenter The Sinner.
The Sinner est une série Netflix divisée en 4 saisons, comptant chacune 8 épisodes de 42 minutes environ. Alors je vous signale que le roman éponyme dont la série est une adaptation est disponible à la bibliothèque Saint-Corneille. Alors n'hésitez pas à l'emprunter. Il s'agit d'une série appartenant au genre du polar et du thriller psychologique. Chaque saison traite d'une enquête différente, sans rapport avec la suivante, et je vais m'attacher à vous parler des points communs. Le personnage central qui apparaît dans chaque saison, c'est l'enquêteur. Le lieutenant Harry Ambrose de la police de Dorchester aux États-Unis. Cet inspecteur est joué par Bill Pullman. Il est très tenace, il est très minutieux et obsessionnel. S'il connaît l'identité du tueur dès le premier épisode, il souhaite toujours approfondir son enquête car les évidences sont trompeuses. Il ne travaille que pour la vérité, au risque de se mettre lui-même en danger, physiquement et psychologiquement. Sa manière d'enquêter est souvent remise en cause par ses collègues, par sa hiérarchie et par ses proches, car elle est très personnelle, à la limite de la légalité, et elle le met face à ses propres démons. Le jeu de Bill Pullman est inhibé, presque coincé. Il faut dire que son personnage est plein de failles et qu'il a beaucoup de mal à créer des liens avec autrui. Il est cependant capable d'empathie et de compassion à l'égard des personnages sur lesquels il enquête, mais elle se manifeste avec subtilité. Les crimes sortent toujours de l'ordinaire, les meurtres sont parfois particulièrement violents, toujours glaçants et soulèvent de nombreuses questions sur le mobile du tueur. Les enquêtes prennent donc rapidement une dimension psychologique et on traite alors des sujets comme les traumatismes enfouis, l'emprise mentale ou la manipulation. La question n'est jamais qui a tué, parce que ça on sait dès le début, mais pourquoi ? Nous ne sommes pas omniscients, on avance dans l'enquête en même temps que l'enquêteur et on ne sait que ce qu'il sait et que ce qu'il voit. Le rythme est assez lent avec quelques scènes d'action et des rebondissements très inattendus qui relancent notre intérêt pour l'intrigue. Même si la série s'est créée une impression de malaise chez le spectateur, elle le tient en haleine du début à la fin car le suspense est constant et les enjeux sont importants pour les protagonistes. On s'inquiète vraiment pour eux tout au long des saisons. Chaque épisode se termine par un nouveau questionnement. Je vous invite donc à vous plonger dans cette série et à mener l'enquête avec l'énigmatique Harry Ambrose.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Eh bien, pour ma part, je ne vais pas aller dans le thriller ou la magie ou l'horreur. Je vais vous parler de Nouvelle École. D'ailleurs, Nouvelle École, ce n'est pas une série à proprement parler. C'est plutôt une émission proposée par Netflix. Vous connaissez sans doute The Voice, l'émission où des coachs, stars de la musique, sont dos à la scène et écoutent, à l'aveugle, soi-disant, hein, des talents chantés. Ok, vous connaissez... Avant The Voice, vous connaissiez peut-être aussi La Nouvelle Star, même genre d'émission musicale qui met en évidence de nouveaux talents, si ce n'est qu'on assistait en tant que téléspectateur à leur phase de casting. Et si vous ne vous rappelez pas bien de cette ancienne émission, peut-être en revanche que vous vous souvenez des casseroles. Sans aucun doute, le moment le plus drôle de l'émission. Bref, vous l'aurez compris, Nouvelle École, l'émission Netflix dont je vous parlais, est une émission musicale, ok. Mais attention, c'est différent de ce qu'on a déjà vu à la télé. Pourquoi ? Eh bien, Nouvelle École propose à trois rappeurs français, connus, de constituer une équipe de jeunes talents. Talents qui vont ensuite être amenés à s'affronter. Alors, la première chose qui m'a interpellée, c'est que c'est une émission populaire qui met en avant... des rappeurs. La voix compte, bien entendu, mais plus encore, le flow, les textes. Ces talents-là sont des interprètes et aussi des paroliers, parfois même des musiciens. Le rap, c'est quand même rarement un genre qui est mis en avant d'une façon aussi abordable. Donc c'est aussi en ça que j'ai trouvé cette émission intéressante. Et je dis ça parce que pour ma part, je n'écoute pas de rap, en fait, ou vraiment pas grand-chose. Pour vous dire, je ne connaissais aucune des trois stars du rap qui avaient pour mission de recruter leurs talents. En revanche, j'apprécie un beau texte, un texte pertinent, bien travaillé. Et là-dessus, franchement, les talents se donnent à fond, selon les contraintes qui leur sont imposées. Deuxième chose qui m'a interpellée, c'est qu'il n'y a pas de scène ou de prime time ou je ne sais quoi avant les toutes dernières étapes. Donc, avant de rapper devant un public en délire, les talents doivent d'abord faire leurs preuves. Ils doivent se battre, donner le meilleur d'eux-mêmes, créer leur texte, trouver leur flow dans un temps record. Donc, il y a du boulot, ça charbonne côté rap, hein, je vous le dis. Et puis, les rendus sont surtout très intéressants. Troisième chose, pas de blablabla des coachs. Si ça doit tailler, eh ben ça taille. Pas de phrases consensuelles, pas de coach qui évite de blesser. Si c'est naze, on le sait tout de suite. Et moi, je le sais, vous le savez, et les talents le savent parce que les coachs sont parfois sans pitié. Et bien, je vais vous dire, ça fait du bien d'entendre vrai. Appeler un chat, une prestation médiocre, médiocre ou pire. Nouvelle École, la saison 1 est déjà dispo et la saison 2 arrive très prochainement. Donc voilà, une émission musicale à part qui dénote pour les amateurs de rap et pour les amateurs de musique en général, mais aussi pour les fanas de la langue, car l'émission montre à quel point on crée un texte, c'est un travail sur les mots, les rimes, le rythme, les sonorités, les jeux de mots, les références culturelles ou autres. Et ce n'est pas donné à tout le monde. On va enchaîner sur la série The Undoing avant une petite pause musicale.
Alors, vous venez d'entendre la voix de Nicole Kidman et c'est le générique de la série The Undoing. Et je ne sais pas si cette voix est très représentative de ce qu'est Nicole Kidman dans cette série, mais à vrai dire, c'est justement le principe. C'est que dans cette série, on ne sait pas exactement qui est qui, qui est quelqu'un de bien, qui est un meurtrier ou une meurtrière. Et finalement, c'est une série sur la vérité. Quand ceux que vous croyez connaître le mieux vous trahissent, qu'est-ce que vous pouvez croire ou ne pas croire ? Alors l'histoire, c'est Nicole Kidman et Hugh Grant qui forment un couple modèle, finalement un peu le reflet du couple de Julia Roberts et du même Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting Hill. Je dis ça, ne me tuez pas les personnes qui sont pour Julia Roberts et contre Nicole Kidman. Mais bon, bref, c'est un couple, ils sont beaux, mais ils sont gentils. Ils sont riches, mais ils organisent des galas de charité pour offrir des bourses à des enfants de familles populaires. Et puis, il arrive quelque chose, le couple rencontre une femme un peu étrange, très belle. Et peu de temps après, une mort brutale vient perturber tout cela. Une histoire assez classique, mais Anne, vous m'avez dit que vous aviez plutôt apprécié ce côté thriller. Et...
Ouais, moi j'ai trouvé qu'il y avait un suspense incroyable, avec des faux-semblants intéressants. Il y a un vrai mystère sur l'identité du tueur ou de la tueuse.
Ouais, c'est exactement ça, c'est un thriller, c'est une enquête policière, mais ça fonctionne quand même très très bien. Et puis on n'a pas complètement l'habitude de voir Hugh Grant dans ce genre de rôle, c'est ça Aurore ?
Ah oui, bah, en général Hugh Grant il est habitué aux comédies romantiques, et puis on l'aime beaucoup dans les comédies romantiques, hein, clairement. Mais en fait, même dans cette série où il n'a pas forcément le bon rôle, contrairement à d'habitude, il reste très crédible, et ça fait du bien aussi de le voir dans autre chose, de voir qu'il sait faire autre chose et qu'il sait bien le faire.
Je suis complètement d'accord avec vous, d'autant plus que ce que je trouve intéressant, c'est qu'au tout début de la série, ben, Hugh Grant il joue le rôle de Hugh Grant et Nicole Kidman le rôle de Nicole Kidman. Et puis, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que la série, finalement, elle interroge l'identité, comment dire ? En gros, est-ce qu'on est la personne qu'on croit être ? Est-ce que nos proches sont les personnes qu'ils disent être ou qu'on pense qu'ils sont ? Et finalement, nous, en tant que spectateurs, on regarde ces personnes en se demandant, mais en fait, qui sont-ils vraiment ? Et eux-mêmes, en tant que personnages, ils n'arrivent pas vraiment à savoir. Et on se rend compte parfois qu'ils ont l'impression d'être des personnes qui ne sont pas, peut-être pas complètement, enfin, on ne sait pas trop. Et ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a toute une réflexion sur la manière dont les riches et les puissants se conduisent. Dans beaucoup de séries, le fait que ça se passe chez les riches ou chez les pauvres, en gros, c'est une question de décor, mais ça n'a pas un impact dingue. Là, on comprend que le sentiment d'impunité, l'habileté sociale, l'obsession de préserver la réputation, elles sont quand même liées à leur milieu. Et puis, il y a la question des avocats, qui est, je trouve, particulièrement incisive dans cette série, où on comprend quand même assez bien que quand on peut se payer un excellent avocat, on a un peu plus de chances de gagner son procès que quand ce n'est pas le cas, en tout cas aux États-Unis. Et puis, justement, alors Hugh Grant et Nicole Kidman, moi j'ai trouvé qu'ils crevaient l'écran, vraiment, que c'est un bonheur de les voir, ils sont toujours aussi incroyables. Et puis il y a un moment, justement, il y a une avocate qui arrive, qui est jouée par Nomad du Mezzouini. Et à partir de là, j'ai trouvé Hugh Grant et Nicole Kidman quasiment médiocres, tellement elle est incroyable. Il faut dire que ces lignes de dialogue sont rares, mais extrêmement bien écrites. Et après avoir vu la série, j'ai appris que la série, elle avait été réalisée par Suzanne Beer, mais qu'elle avait été créée par David E. Kelly. Est-ce que vous savez qui est David E. Kelly ? Il faut peut-être plonger vers des souvenirs très très lointains.
Un auteur de série déjà, non ?
Oui, exactement. Un créateur de série qui a créé une série qui est Ally McBeal. Alors c'est vieux Ally McBeal, mais du coup, en apprenant ça, j'ai un peu mieux compris pourquoi la partie procès de The Undoing, elle est aussi réussie, et pourquoi il avait réussi à faire ces personnages d'avocats aussi incroyable, alors que c'est des personnages secondaires dans la série en théorie, finalement, à partir du moment où ils arrivent, ça prend toute la place d'une certaine manière. Voilà, donc cette série, elle est à la fois un peu classique, c'est une très bonne série policière, très bien faite, et en même temps, elle a quelque chose d'assez extraordinaire, qui se retrouve un peu dans le titre. The Undoing, c'est compliqué à traduire, ça peut se traduire à la fois par le délitement, ou la décomposition, ou... En gros, c'est l'action de défaire quelque chose. Et donc, c'est à la fois le couple de Nicole Kidman et Hugh Grant dont on ne sait pas s'il est en train de se défaire ou pas. Et puis, ils essaient en même temps d'analyser, de décomposer pour essayer d'y comprendre quelque chose. Et finalement, c'est une série qui est à la fois très efficace, très belle et puis, en fait, très intelligente. Voilà. Donc, c'est
une mini-série. Donc
non seulement c'est
complète.
Non seulement c'est une mini-série, mais en plus, elle est disponible à la Bibliothèque Saint-Corneille. C'est là que je l'ai empruntée. Et après avoir parlé de Nicole Kidman, de Hugh Grant et de Noma Dumezweni. Maintenant, on va revenir en Allemagne. J'ai assez hâte de vous entendre, Anne, parce que la dernière fois que vous nous aviez présenté une série allemande, c'était Deutschland 83 et c'était génial.
Mmh. Ouais, j'aime beaucoup les séries allemandes.
Et donc, on va écouter le générique, c'est ça?
Oui. Après la série L'Opéra, je vais poursuivre sur la thématique de la danse, mais cette fois-ci en Allemagne, au milieu du XXe siècle, et avec la danse de salon et le rock. Berlin, c'est 3 saisons. Alors, il y a Berlin 1956, Berlin 59 et Berlin 63. Chaque saison fait 6 épisodes chacune. C'est une chronique romanesque de l'Allemagne d'après-guerre, une élégante et romanesque saga familiale. On y découvre Katharina Schollack, qui dirige une école de danse de salon sur le Kurfürstendamm, la célèbre avenue de Berlin, d'où le titre original de la série, qui est Kudamm 56. Alors cette dame, elle est autoritaire, attachée aux bonnes manières, et à la réputation irréprochable de sa famille. Et elle a une obsession, bien marier ses 3 filles. L'aînée va épouser un futur procureur, elle est infirmière, et elle fait tout pour séduire son supérieur, un éminent médecin. Quant à Monica, elle rejette les conventions sociales et elle refuse de rentrer dans le moule. Heureusement pour elle, le rock'n'roll américain déferle sur l'Allemagne. Cette musique, qui choque les sensibilités de la société bien-pensante de l'époque, va offrir à Monica une échappatoire efficace. Et le rock'n'roll en tant que danse sera le détonateur qui lui donnera la force de se rebeller et la possibilité de s'épanouir. Et de l'émergence du rock au caf de jazz, la musique symbolise à la fois l'évolution des relations entre hommes et femmes et le besoin de défoulement de la jeunesse allemande dans ces années-là. La série évoque ainsi le fossé qui se creuse entre conservatisme et modernisme dans un monde en pleine mutation, notamment en ce qui concerne le droit des femmes. Monica incarne parfaitement cette envie de liberté et c'est un vrai plaisir de la voir évoluer au fil des épisodes. C'est un portrait touchant d'une génération qui souhaite s'émanciper et oublier les traumatismes de la guerre. Et sous ces dehors légers et d'apparence mêlés, avec les histoires d'amour et des drames, les thèmes sociaux et politiques majeurs sont abordés naturellement, sans clichés, et même de façon subtile. On a la place de la femme dans la société, l'obsession de la réussite, la culpabilité, le mensonge, le problème du déni des crimes du Troisième Reich, le puritanisme, le sexisme décomplexé, et même l'homophobie institutionnalisée. La saison 2, Berlin 59, continue d'explorer la complexité de cette société en pleine guerre froide et dans une veine féministe tout aussi enlevée. Et dans Berlin 63, nous suivons la destinée de ces héroïnes dans un Berlin divisé en 2 par le mur. Des héroïnes dont on découvre les failles et les ressources et qui prennent une épaisseur remarquable. Ce mélange d'enjeux intimes et de peinture sociétale rend cette série passionnante et vraiment addictive. À ceci, j'ajouterai le charme de l'ambiance rétro-50s. Et grâce à l'emploi d'une lumière sous-saturée, des costumes et de la musique, c'est un charme qui fait que cette série est géniale et peut plaire au plus grand nombre. Voilà, maintenant on va changer complètement de registre avec la série Willow. Nous voici la bande-annonce.
Tu penses savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ce qui est lumineux. Et ce qui est sombre.
Maintenant, oublie tout ce que tu sais. Viens avec moi.
Ils arrivent.
Willow.
Nous sommes à la recherche du sorcier Willow. On m'a dit qu'une fois, il y a longtemps, vous avez vaincu les forces du mal.
Vous êtes le portrait craché de votre mère.
Mon cher ami, je pensais pouvoir empêcher tout cela. J'ai eu tort.
Mon frère Erk a été enlevé. Le monde a besoin de vous. Il a besoin de votre magie.
Suivez-moi. C'est là que nous devons aller, au-delà des confins de notre monde. Vers l'inconnu.
Willow !
Il faut que tu m'aides.
Comme au bon vieux temps. L'attaque, la course, les chevaux, la pagaille, le chaos et une fin de conte de fées.
Si je vous dis Ron Howard, George Lucas et Disney, à quoi pensez-vous ? Non, monstres d'Halloween et malfaisance ne sont pas autorisés. Vous seriez vraiment méchant de penser cela. Non, il faut penser commerce. Et en effet, la série Willow est un splendide joyau commercial de notre époque. Preuve en est plein de choses. Étonnant, non ? En gros, vous voulez faire une série qui marche et méchamment politiquement correcte, suivez en détail cette série qui vous en donne la recette. Déjà, il faut prendre un mélange de plein d'éléments de saga à succès. Cette série, qui est débarquée en novembre 2022 sur Disney+, est la suite de Willow, le célèbre film de 1988, réalisé par Ron Howard, sur des personnages inventés par George Lucas, tourné au Pays de Galles, et qui semble distribué par M6 pour occuper une soirée des vacances de Noël, avant que ne débarquassent les poupoufs riches à millions chialant sur un chocolat chaud. Ah bon ? Mais oui ! Vous ne pouvez en douter tant il y a de trucs, de machins et de bidules. Des bidules, vous rendez-vous compte ? Qui sont empruntés à d'autres sagas. Bon, pour les sagas de Lucas, c'est normal vu qu'il a créé l'univers. Non, Potter, dégage, j'ai déjà trop parlé de toi. Le Seigneur des Anneaux, spécialement le retour du roi en film, pour le générique de fin en dessin, les méchants inspirés des orques, dont un qui y apparaît avec une tête mise en cage. Étrange. On a quasi le même ici. La musique anachronique, merci Chevalier. Et j'en oublie tant il y en a et on va me dire que j'empiète sur le temps de mes camarades ici présents. Même l'affiche de la série reprend un mélange d'un tas de films d'Heroic Fantasy, de Marvel, attention sa tâche, et autres. Il s'inspire même des fêtes organisées dans la ZAD. Dans les ZAD. Deuxièmement, on a un casting digne d'une pub Benetton des années 1990. D'ailleurs, les personnages ne risquent pas de faire de vagues. Et ils se marieraient volontiers aux spécialités poêlées d'un restaurant asiatique. On joue sur le vintage, vous dis-je. Une pub pour United Color of Benetton. De la balle, Ziva. Je suis à nouveau jeune. La couleur, le flashy est encore de mise en dehors des ronds-points et on a encore un cinéma en Villa Compiègne. Alors, vous avez des acteurs que certains définiraient comme typés physiquement, d'autres au physique particulier, un couple de lesbiennes. Perso, je m'en cogne. Du moment que le jeu est bon, c'est l'essentiel. Mais là, on voit un peu les ficelles du « on va essayer de tenir des quotas ». Ce qui sauve, c'est que le jeu des acteurs est plaisant et caricatural comme on l'aime dans ce genre de film. En effet, ce film, c'est un bon jeu de rôle bien masterisé. Je dis cela car cette série est construite comme une quête de jeu de rôle classique, avec un maître du jeu qui connaît ses gammes et décide de jouer pépouze avec ses potes habitués, pizza-bière à l'appui et un brin de nostalgie réconfortante dans les moments de spleen. D'ailleurs, j'ai visionné cette série avec des amis formidables le jour de l'an, c'est vous dire. Pas de grosses surprises, mais pas d'avaries non plus. Simple, classique et efficace. Dans la lignée du film d'origine, au-delà du scénario et des personnages, les lieux de tournage, sont dans le même esprit. Les effets spéciaux ont gagné en qualité tout en gardant un filtre un peu désuet. De même, les scènes de flashback nous ravissent et aiguiseront peut-être la curiosité des jeunes pour aller visionner le film originel. Un grand absent visuel, Mad Martigan, campé par Val Kilmer, qui ne rentrerait peut-être plus dans son armure, et son humour ravageur. Là aussi, ils ont fait fort en trouvant un personnage semblable, soi-disant étant un compagnon de quête de Mad Martigan, en la personne de Amer Shada Patel, pardon pour l'accent, qui campe le personnage incroyable de Bourman, le Mad Martigan 2.0, mais pas en copier-coller et avec du relief, un bon background et plus trouble que les autres. Sans spoiler, il y a une scène sous la cascade à mourir de rire sans une seule parole. C'est du mime et c'est incroyable. Côté nostalgie, on retrouve les comédiens du film, tels que Warwick Davis en Willow, Joan Wallet en Chorcha, Graham Hughes en Silas, et autres personnages mythiques tels que un des Brownies. Enfin, à cela, il faut bien conclure et se demander, question que je laisse ouverte, avec un gros clin d'œil appuyé comme dans Willow, ne serait-on pas en présence d'un univers en charentaise?
C'est vrai que c'est une série qui est hyper confortable. On retrouve notre petit Willow de notre jeunesse, quoi. Et puis avec, comme tu dis, les effets spéciaux d'aujourd'hui, mais bon, pas trop non plus pointu. Juste ce qu'il faut pour que ce soit tout bien, quoi.
Oui. Tranquillou. Et ce qui est étrange, c'est que la deuxième saison n'est pas commandée. A priori, le succès fut un peu trop mitigé par Disney, qui, je pense, par la moyenne de reprises qu'il a fait et de clin d'œil, pensait remporter la timbale, et a priori, pas tant que ça. Donc,
pas sûr qu'il en ait la
suite. Pour l'instant, on n'est vraiment pas sûr d'une deuxième saison. Et c'est dommage, parce que ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'il y a un côté nanar assumé. Ou pas assumé, mais en tout cas, il devrait l'être. Parce que justement, ces personnages confortables...
Ça joue sur la nostalgie du public, en vrai. Hein,
bien sûr. Pour les jeunes, c'est peut-être un peu trop gentillé, justement, par rapport à ce qu'on a pu présenter entre Wednesday, etc. Bah là, il n'y a pas de risque, quoi. C'est... Ouh là là, c'est vraiment... On reprend, on fait plaisir à toutes les minorités, mais on ne fait pas de vagues. C'est un peu trop beau, trop gentil de ce côté-là.
Mais c'est l'adaptation en série du film.
Non, c'est la suite. La suite. Donc c'est génial.
T'as l'impression qu'il n'y a pas de prise de risque en fait par rapport à.
Par rapport au casting et finalement les personnages, non. Objectivement, les deux personnages qui m'ont vraiment séduit, c'est Willow. Parce que il apparaît autrement. On voit ses faiblesses, on voit sa force, on voit aussi que c'est autre chose que le gentil petit héros qui fait disparaître des cochons, clin d'œil, et surtout Boorman, qui est, mais c'est vraiment le Man Martigan, quoi. C'est, on sait pas trop s'il est gentil, méchant, il y a du malhonnête, il y a de l'honnête, il y a un humour, mais excellent. Mais les personnages, et surtout les personnages féminins, c'est mon Dieu, qu'ils sont prévisibles. Mais ça fonctionne. Bon, peut-être parce que Danan, hein, la vraie impératrice,
c'est ça,
est toute mignonne dans sa beauté blonde qui devient rousse avec le temps.
Bah, elle y apporte sa grâce d'une certaine façon. Ça vient contrebalancer un petit peu.
Oui, mais pas au niveau même son personnage, ses réactions. On les connaît, on les a déjà vus, on les a déjà entendus. Et c'est ça qui, à mon avis, fait que saison 2, au revoir.
En attendant, on va écouter une dernière série pour cette émission.
Oui.
Qui est Ragnarok.
Par Rémi.
Alors justement, je vais pas faire très original parce que je vais poursuivre justement l'univers avec les charentaises justement dont tu parlais, Yann. Mais avant tout cela, on va s'installer tranquillement et puis on va vous présenter effectivement la bande-annonce de Ragnarok.
Je n'ai fait que révéler ce qui était déjà en toi. Je t'ai ouvert les yeux.
D'abord, j'aimerais qu'on souhaite la bienvenue à deux nouveaux élèves. Magne et Loritz sont frères. Je vous laisse vous présenter à vos camarades.
J'ai un peu d'avance, j'ai sauté des classes et... Magne, lui, il est doué pour plein d'autres choses.
C'est comme si tout avait changé depuis mon arrivée à Eda. Est-ce que je suis devenu invincible?
On peut dire que c'est ici que s'est produit le dernier combat entre les dieux et les géants. Qu'est-ce que vous savez sur eux?
Ce jeune homme qui vient d'arriver dans ta classe, je veux que tu gardes un œil sur lui.
Lui, c'est Fjord. C'est un Jotul, le troisième du nom. Toutes les filles sont dingues de lui.
Nous décidons qui parmi eux vit ou meurt.
Pour ça, faudrait déjà qu'on soit en guerre.
Les géants sont toujours parmi nous. Les humains les regardent détruire le monde sans rien faire. Aucun humain n'a eu la force d'affronter ces monstres. Jusqu'à aujourd'hui...
Alors avant de regarder effectivement donc la série Ragnarok, je vous conseille de prendre un bon thé et d'écouter une musique d'ambiance plutôt zen, car Ragnarok est une mini-série dynamique et danoise, donc de l'année 2020, créée par Adam Price. Et la série combine un message environnemental avec la mythologie nordique et des aventures de super-héros qui vont vous couper le souffle. La série a d'ailleurs été filmée dans le comté de Hordaland en Norvège. Et même si vous recherchez le nom d'Eda, où se déroule l'intrigue de la série, je vous mets au défi de la trouver. Alors peut-être chez Ikea, mais je m'égare. Pourquoi ? Parce qu'elle ne figure sur aucune carte de la Norvège. Alors la ville, justement, tire son nom du Snorri Sedda, un ancien manuscrit de poésie islandaise, publié au XIIIe siècle. Donc, vous trouverez par contre les magnifiques paysages d'Oda, petite ville de 5000 habitants au milieu d'un fjord au sud-ouest du pays et lieu de tournage de la série. Alors Ragnarok, c'est l'apocalypse dans la mythologie nordique qui commence par des catastrophes naturelles et qui culmine dans la grande bataille entre les dieux et les géants. Alors lorsque des conditions climatiques extrêmes semblent annoncer l'apocalypse, il faut bien évidemment des guerriers extraordinaires pour lutter contre la fin du monde. C'est pourquoi dès le premier plan de la série se présente notre héros, Magne, incarné par un David Staxton contemplatif qui revient dans sa ville natale d'Eda avec sa mère et son frère. Alors un geste aimable plus tard, Magne reçoit de manière inattendue et mystérieuse les pouvoirs de Thor. Alors sans être justement trop didactique, la série se réapproprie les légendes nordiques, pour la plupart mises en avant grâce à Marvel. Alors il n'y a pas ici justement de super-héros et héroïnes en collant et complètement masqués, mais bien au contraire un jeune homme touchant, Magne, qui subit des transformations intérieures en proie à ses doutes et devant combattre des créatures mythiques et terrifiantes. Avec l'aide de ses pairs, pour justement, dans chaque épisode, on va retrouver effectivement les personnages. Donc on a Odin, le père de Thor et de Loki, roi des dieux d'Asgard, Magne Seyer, donc justement adolescent et réincarnation du dieu du tonnerre, Laurit Seyer, son demi-frère, fils de Vidar et réincarnation de Loki, et bien évidemment la famille Jotul de la mythologie nordique, avec Fjor, Saxa, Ran et Vidar. Donc ils représentent par contre, eux, les géants de la mythologie nordique, en version plus moderne. Sous la forme d'une famille de pollueurs sans scrupules qui empoisonnent l'eau du fjord avec leur activité industrielle. Alors chaque épisode s'ouvre avec la définition d'un terme nordique qui sera développé justement dans le scénario de chaque épisode. Et je trouve que c'est plutôt intelligent parce que, y compris lorsque l'on écoute la série en version originale, avec ou sans sous-titres pour les puristes. Et ne vous y trompez pas, Ragnarok ne se résume pas à un drame lycéen avec des adolescents maussades, des histoires d'amour brisées, mais je trouve que c'est plutôt une histoire qui est profondément liée à des sujets d'actualité, tels que la lutte contre le réchauffement climatique, les dégâts d'un mode de vie non durable. Et je trouve que la série véhicule un message plus qu'encourageant pour les adolescents, mais pas seulement. Il met en avant qu'il n'y a nul besoin de porter un costume, une cape et des collants pour être un super-héros ou héroïne, car un cœur aimant est déjà un début pour sauver le monde. Et il n'est pas du tout difficile de comprendre que même si les personnages de l'histoire vont à un moment donné se retrouver impliqués dans une bataille plus grande que nature, entre les forces du bien et du mal, un certain manque de pouvoir surnaturel n'est pas un énorme obstacle quand on veut rendre le monde meilleur, ou tout du moins un endroit moins mauvais pour les générations futures. Et pour moi, c'est vraiment une série qui laisse pas indifférent. Donc j'ai vraiment aimé l'atmosphère envoûtante sur fond de grisaille, la montée graduelle des révélations et le tout assuré par un casting haut de gamme.
Merci beaucoup, Amy. Ben, j'espère qu'on vous aura convaincu. Je vous rappelle les séries qu'on vous recommande. Donc Amy nous a parlé de Shyamalan et de Ragnarok. Nathalie de The Sinner, Antoine The Undoing, Yann de Wednesday et Willow, moi-même... je vous ai parlé de l'opéra et de Berlin 56 et Aurore de la Nouvelle École. Merci beaucoup à tous et merci aussi à Aurore pour la réalisation. Pour nos prochaines animations à la bibliothèque, Antoine va très bien vous en parler.
Oui, alors Anne, on a un week-end un peu chargé, pas seulement à la bibliothèque, puisque vous savez peut-être que c'est le dernier week-end du Festival de langue française Parole, et c'est le week-end dans la région de Compiègne. Les trois événements majeurs qui se profilent pour les jours qui viennent, c'est surtout Caroline Loeb. Si vous n'avez jamais été à Saint-Pierre-en-Châtre écouter un concert du Festival des Forêts, courez écouter Caroline Loeb demain soir. Il y a aussi un humoriste qui n'est pas ultra connu en France pour l'instant, mais qui s'appelle Joss Houben et qui sera à Saint-Yves dimanche. Et puis, côté bibliothèque, nous, on aura toute la journée de dimanche, une journée de la poésie, dont je vous invite à aller regarder le programme en ligne. Mais il y aura une lecture dans le noir, il y aura différentes prises de parole sur la poésie, il y aura de la vente de livres. Et puis, il y aura aussi Tahar Benjelloun et Dominique Pinon en fin de journée à la bibliothèque. Mais je ne vous dis pas de venir parce que c'est complet depuis déjà plusieurs jours. Et puis, on a le Festival Cité Philo qui se poursuit. Vous savez qu'on fait ça chaque année. Et je dois dire qu'on a une programmation qui en tout cas personnellement me passionne cette année, peut-être plus que les années précédentes, avec une conférence demain à 15h sur l'accélération du temps, avec Christophe Bouton. Vous savez, est-ce que le temps va plus vite maintenant? Est-ce que l'histoire s'accélère ou s'est accélérée? Ou est-ce qu'en fait c'est juste une impression? On va aussi avoir Vanessa Manseron, qui est anthropologue et qui nous parlera des veilleurs du vivant, donc du rapport un peu des humains à la nature, au naturalisme, etc. Et puis on terminera le festival avec quelqu'un qu'on connaît bien, Bernard Debargue, qui s'exprime souvent sur les ondes de radiographie, qui connaît très très bien la forêt de Compiègne, mais pour parler de quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être un arbre et comment nous, les humains, on comprend l'être des arbres. Voilà, j'en dis pas plus. Et Anne, je vous laisse annoncer nos prochains rendez-vous.
Exactement, la prochaine émission sur Graphite est prévue le vendredi 26 mai. Et la prochaine émission spéciale série le vendredi 30 juin. N'hésitez pas à participer si vous avez envie de nous recommander des séries aussi. Et le prochain rendez-vous culture dans le cloître de la bibliothèque le vendredi 12 mai. À très bientôt et bon week-end.